Bonjour Nathalie Arthaud.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin. On continue notre tour d'horizon et nous vous recevons au lendemain d'une journée de mobilisation des fonctionnaires sur leur salaire. Les syndicats de la fonction publique ont appelé ce mardi les quelques 5,7 millions de fonctionnaires à faire grève. Un mouvement faiblement suivi hier. Vous pensez avoir été entendu ?
Je pense que ça ne suffira pas, non, pour être entendu très clairement. Donc c'était en effet un mouvement de grève pour dénoncer à la fois les salaires en berne. Ça, c'est vrai dans beaucoup d'entreprises privées où les salaires ne suivent pas la flambée des prix et avec les retards de salaires qui sont pris, y compris. Alors là, dans la fonction publique, c'est évident, mais dans beaucoup d'entreprises privées, c'est pareil. On est vraiment pris en tenaille. Voilà, pris en tenaille entre ces bas salaires et puis cette flambée des prix, donc il y avait ça, les conditions de travail, cet écœurement de voir qu'il y a des milliards et des milliards. Alors là, c'est pour l'industrie d'armement, c'est pour les financiers, mais ils vont reprendre 700 millions sur le budget de l'éducation nationale, vous voyez. Donc voilà, on se rend compte que finalement, tout ce qui est utile à la population, c'est vrai pour l'éducation, c'est vrai pour les hôpitaux, c'est vrai pour les transports en commun, eh bien tout ça est à l'os. C'est à l'os parce qu'on est dans une société et avec un gouvernement qui n'en a que pour les plus riche au bout du compte.
Et pourtant, faible participation hier, mais forte unité syndicale. Cela faisait 5 ans que l'ensemble des fédérations de fonctionnaires n'avaient pas parlé d'une même voix. Il y a un an, presque jour pour jour, c'était la réforme des retraites. Là aussi, l'unité syndicale n'avait pas suffi non plus. Est-ce que cette unité, elle est vouée à l'échec ?
Mais c'est une question de rapport de force. Et tant que le monde du travail se mettra pas massivement en colère et en révolte, j'ai envie de dire, eh bien oui, on reculera. Parce que c'est ça, nous reculons. Vous savez, cette réforme des retraites, donc là, c'est l'année de l'anniversaire, comment dire,
le 16 mars,
funeste, hein, de son vote. Pour moi, c'est vraiment le symbole de la politique anti-ouvrière du gouvernement. Vous vous rendez compte qu'en 1983, c'était la retraite à 62 ans. 1983, le pays était 5 fois moins riche qu'aujourd'hui. Alors, comment pouvions-nous faire cela en 83 ? Pourquoi plus aujourd'hui ? Parce qu'encore une fois, l'argent, il est capté à un pôle de la société. Et ceux qui travaillent sont méprisés,
Et on l'entend, vous portez la voix du combat social en France. Vous êtes candidate aux européennes. Qu'est-ce que l'échelon européen peut changer ?
Ah, moi, je pense qu'il faut porter notre voix de travailleur à tous les échelons. Mais je n'ai absolument aucune illusion sur ce que représente aujourd'hui l'Union européenne. Elle a été créée par les capitalistes, hein. Voilà, ils ont voulu créer un marché européen.
Ce que vous dites, c'est que l'Europe, c'est une Europe de capitalistes et
absolument.
Que le concept européen est un concept de capitalistes ?
Non, pas le concept, parce que moi, je rêve d'un monde uni et sans frontières. Moi, mon rêve, c'est que chaque être humain puisse un jour dire mon pays, c'est la Terre. Mon pays, c'est la Terre et ma patrie, c'est l'humanité. Donc moi, mon aspiration profonde, c'est qu'il n'y ait plus ces frontières.
Donc il n'y a plus ni Europe ni France. Mais...
Et c'est qu'il n'y ait plus ces frontières, c'est qu'il n'y ait plus de concurrence entre les êtres humains, qu'il n'y ait plus cette guerre économique. Mais ça veut dire renverser le capitalisme, très clairement. En fait, si vous voulez, le capitalisme, il a colonisé le monde entier. Et donc, c'est lui qui domine à tous les échelons, France, Europe, au niveau du monde, et c'est le problème. Pour moi, le problème, c'est véritablement cette société capitaliste qui nous condamne aux crises et qui nous condamne aussi aux guerres.
Et bien justement, j'allais y venir. Le Parlement européen est aussi marqué par la guerre aux portes de l'Europe en Ukraine. Est-ce qu'il faut armer davantage l'Ukraine, par exemple, Nathalie Arthaud ?
Non, il faut... pour nous, cette guerre, c'est pas une guerre qui oppose les Ukrainiens aux Russes, en réalité. C'est une guerre qui oppose les puissances impérialistes occidentales, États-Unis, France, États européens, derrière l'OTAN, à la Russie. C'est une guerre de rivalité et d'influence qu'il y a dans cette région de l'Est de l'Europe, par la peau des Ukrainiens interposée. En réalité, les Ukrainiens sont les victimes, sont les otages d'une guerre pour la suprématie économique et politique. Donc c'est une guerre impérialiste que je dénonce.
Et concrètement, on fait comment ? Avec la guerre à nos portes, il vaut mieux quand même se battre pour la paix ?
Comment l'arrêter, cette guerre? Eh bien, moi, je pense que ça viendra des peuples, ça viendra des opprimés, des exploités, des populations russes, ukrainiennes, d'ici aussi de France, qui demanderont des comptes à leurs gouvernants. Leurs gouvernants qui ne savent effectivement faire qu'une chose, c'est-à-dire nous mettre en concurrence les uns avec les autres, nous plonger dans une guerre économique féroce qui régulièrement, en effet, se traduit en affrontements armés. Il faut arrêter avec ça. Mon seul espoir, mon espoir de paix, ne peut venir finalement que d'une révolte des populations en Russie, en Ukraine et ici.
Et pourtant, ces populations ne se révoltent pas.
Oui, mais c'est bel et bien le programme. C'est bien bel et bien la perspective. Parce que tant qu'on est gouverné par des politiciens qui ne jurent que par cette accumulation, alors pour les uns, c'est les oligarques, il faut que les oligarques russes fassent, accumulent des milliards et des milliards. Mais ici en
vous mettez tout le monde sur le même plan, russe, ukrainien?
Non, moi, je ne parle pas de Russes. Et justement, je ne fais pas de bloc, ni les Russes, ni les Ukrainiens. Je pense que dans tous les pays, et c'est vrai ici aussi en France, il y a des riches, il y a des pauvres. Il y a des exploités, il y a des exploiteurs. Et ils n'ont pas les mêmes intérêts. Vous savez, moi, je peux vous donner les gagnants de cette guerre. Les gagnants de cette guerre en Ukraine, ça sera les oligarques ukrainiens, les oligarques russes, et ça sera aussi les financiers européens. Européens et américains.
Pourquoi?
Mais parce qu'ils défendent leurs intérêts dans tout ça. Ça sera les marchands d'armes aussi. Ils sont déjà les vainqueurs de cette guerre. Ils sont déjà, c'est tous ceux qui sont déjà en train de parier sur la reconstruction de l'Ukraine, qui sont en train de faire de faire des affaires là-dessus. Et vous savez, quand on nous dit le poulet ukrainien, il est géré par des holdings financières capitalistes où il y a des fonds qui sont américains, qui sont européens. Donc c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. C'est effectivement pour les plus riches toutes ces guerres. Pour les paysans, pour les ouvriers, pour les plus pauvres, les soldats, eh bien, ça sera qu'une défaite.
Et d'ailleurs, l'Union européenne vient de trouver un accord pour plafonner les importations de volailles, de maïs et d'avoine. C'est quand même une réponse de l'Europe. L'Europe, elle fait des choses aussi pour respecter les Européens.
Ah, mais pour respecter les intérêts des capitalistes de l'agriculture, ça, je veux bien le croire. Ça, je veux bien le croire. Mais pour respecter les petits paysans qui essayent de vivre avec leur travail, ça, c'est encore une autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils les livrent, toujours pareil, à la loi des plus gros, vous savez. Qu'est-ce qu'ils font contre Lactalis? Qu'est-ce qu'ils font contre les trusts de l'agroalimentaire qui écrasent et qui étranglent les petits agriculteurs avec leurs prix toujours plus bas, alors qu'eux, ils nous font payer quand ils les revendent aux consommateurs bien plus cher.
Nathalie Arthaud, vous continuez à vous présenter, à porter vos convictions, on l'entend à nouveau ce matin, alors que votre score se situe généralement entre 0 et 1%. Qu'est-ce qui fait que vous y retournez cette année encore?
Mais c'est ma révolte. C'est ma révolte. Voilà, je ne peux pas accepter que l'ensemble de la population se sacrifie sur l'autel des profits. Je ne peux pas accepter qu'on ait cet horizon unique, le capitalisme, alors même que, je le redis, il nous mène de crise en crise et de guerre en guerre. Moi, j'ai une conviction, c'est qu'on peut organiser la société autrement, de façon collective, à condition que ce soit ceux qui la font tourner, le monde du travail, qui dirige. Vous savez, les travailleurs, les ouvriers, les femmes et les hommes des classes populaires n'ont aucun intérêt à partir en guerre contre d'autres travailleurs du monde. Aucun intérêt à les exploiter. Donc pour moi, en effet, si on a cet idéal de faire surgir une société sans les inégalités, sans l'exploitation, sans cette course au profit, au marché, eh bien, en effet, il faut s'appuyer sur cette force-là du monde du travail.
Et si on revient à l'Europe, qu'est-ce qui aujourd'hui, selon vous, dans le fonctionnement de l'Europe, ne fonctionne pas, dysfonctionne? Qu'est-ce que, si vous étiez élu demain, vous feriez concrètement pour changer l'Europe?
Pour moi, l'Europe, c'est l'emballage politique institutionnel d'une société qui est organisée en classe sociale. Donc moi, le problème, ce n'est pas l'emballage, c'est vraiment le fonctionnement même de la société qu'il faut mettre en cause. Je n'accepte pas, moi, qu'il y ait des classes sociales. Comment accepter qu'il y ait des femmes et des hommes qui soient condamnés à l'exploitation, condamnés finalement à bosser sans avoir jamais rien à dire? C'est ça, le monde du travail.
Et donc vous êtes candidate uniquement pour changer ça?
Je suis candidate pour porter cette voix, à la fois des intérêts du monde du travail et cette affirmation qu'il va falloir renverser cette société capitaliste que le monde du travail en est capable.
Et on le disait, petit score mais gros engagement, Nathalie Arthaud, qu'est-ce qui vous fait continuer le combat? Alors où est-ce que vous puisez quand même les forces pour mener votre lutte?
Voilà, c'est ma révolte et ma conviction. Ma conviction que le capitalisme n'est pas éternel, et que oui, il nous impose aujourd'hui de grandes souffrances, des inégalités terribles, Mais en même temps, tout ça, ça débouche aussi sur des révoltes. Ça débouche aussi sur des insurrections. Eh bien, oui, il faut avoir cet idéal-là, cet idéal qu'on peut construire une société sans le marché, sans cette loi du profit, à condition donc que ce soit le monde du travail qui se porte à la tête de la société, qui la dirige.
J'ai lu dans une interview qu'un jour vous aviez donné que vous étiez arrivé à lutte ouvrière par le catholicisme. Ça m'a intrigué.
Je dirais pas par le catholicisme, non, ça fait partie de mon histoire, plus exactement, et de mon histoire où en effet, il y avait cette aspiration à l'égalité, justement, à l'égalité. Et je crois que ça, c'est un rêve ancestral, en réalité, l'égalité des hommes et des femmes sur cette planète. Mais clairement, ça peut pas être... Ça ne peut pas se mettre en place dans le cadre de cette société-là capitaliste où finalement il y a ce fossé qui se creuse dès la naissance entre ceux qui concentrent les capitaux et donc le pouvoir. Mmh. Le pouvoir sur les autres et ceux qui en sont démunis, qui n'ont que leurs bras et leur cerveau pour vivre.
Vous opposez très fortement, effectivement, ces classes sociales. Quand on regarde ces classes sociales, quand on regarde l'avancée sur le dernier siècle, par exemple sur les 100 dernières années, il y a eu des avancées extrêmement significatives dans l'égalité. Il y a eu des avancées sur tout un tas de sujets, sur le travail, sur la santé, sur l'éducation. Ces avancées, est-ce que vous les reconnaissez au moins, Nathalie Arthaud ?
Les avancées qui ont pu avoir lieu sont le fait des luttes collectives, des rapports de force, des combats sociaux, et ça s'est fait dans les pays les plus riches.
C'est que le combat qui peut mener...
D'abord, ça ne s'est pas fait dans les pays les plus pauvres, et ça, c'est le revers aussi de la médaille. C'est que finalement, il ne faut pas raisonner qu'en fonction, si vous voulez, de ce qui se passe ici, dans un des pays les plus riches de la planète. C'est que ce qui se passe dans ce pays-là est aussi le fruit de toute l'histoire d'un pays qui a colonisé une bonne partie de la planète et qui a pillé un tas de pays, et qui continue d'ailleurs de le faire. Donc, le revers de la médaille, c'est quoi ? C'est ce qui se passe au Soudan, c'est ce qui se passe en RDC, c'est ce qui se passe au Sahel, c'est ce qui se passe en Palestine. Le revers de la médaille, c'est aussi cette guerre atroce à Gaza, parce que vous savez ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est aussi le fruit de la colonisation et des calculs des grandes puissances. Donc moi, je vois pas de progrès à l'échelle du monde. Et je vois même que dans les pays riches, où vous avez souligné une évolution, des progrès sur un temps long, moi, ce que je vois, c'est qu'on est en train de reculer. On est en train de reculer il y a un fossé qui se creuse aujourd'hui au niveau des inégalités. C'est quand même incroyable de voir des femmes et des hommes qui triment tous les jours, qui se retrouvent obligés de dormir dans leur voiture, par exemple, qui n'ont pas le logement, qui n'arrivent pas à se nourrir, à se chauffer, alors même qu'à l'autre pôle, vous avez des femmes et des hommes qui peuvent récupérer 1 million par jour. 1 million par jour, qu'est-ce que c'est que cette société-là ?
C'est minoritaire.
Voilà. Mais c'est minoritaire, mais ce sont eux qui ont le pouvoir. Ce sont eux qui décident de ce qu'on produit, comment on le produit, où on investit, où on n'investit pas. Et y compris qui mettent leur argent dans la spéculation. Donc le problème, ce n'est pas que les inégalités, c'est le pouvoir qu'une minorité concentre entre ses mains.
On entend votre colère ce matin en un mot. Qu'est-ce qui vous donne encore de l'espérance aujourd'hui ? Quelle est votre espérance ?
Mais je suis sûre que les femmes et les hommes qui aujourd'hui vivent dans cette société et qui sont confrontés à toutes ces difficultés, à toutes ces horreurs, ils vont chercher le chemin de changer les choses. Ils vont le chercher, il n'y a pas le choix. Il va falloir s'en sortir de tout ça. Et donc, il va falloir, en effet, secouer toute cette société. En tout cas, moi, mon combat, c'est de dire aux femmes et aux hommes qui font tourner la société, vous savez, ils font le plus difficile au bout du compte, qu'ils reprennent confiance en leur force, qu'ils reprennent confiance dans la légitimité de leurs intérêts et qu'ils reprennent le combat. Le combat, je le redis,
merci,
pour changer toute la
merci
société.
Merci beaucoup. Nathalie Arthaud, je rappelle que vous êtes chef de file de lutte ouvrière, candidate aux élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain. Merci d'avoir été l'invité de la matinale.